Alors bonjour à tous, frères et sœurs. C'est une joie pour nous de vous rendre visite ce matin. Alors je vous prie de m'excuser à l'avance, j'espère que mon message sera pas trop interrompu par la toux. Mais bon, j'ai pris ma petite bouteille d'eau. On nous a rappelé l'amour du Seigneur pour nous ce matin. Et je ne vais pas aller très loin de ce message. On va commencer par prier, puis on lira ensuite le verset pour ce matin. Seigneur, merci pour ces moments, merci de nous avoir rassemblés. Merci parce que tu nous as aimés. Et c'est vrai que on s'en rend peut-être pas compte au début, mais avec les années, on apprend à comprendre que on n'a vraiment rien en nous qui puisse justifier ton amour. Mais toi, tu nous as aimés malgré ce que nous étions. Et tu as en vue des choses excellentes pour nous. Et vraiment, nous ne pouvons que te louer, te rendre grâce et nous humilier devant toi. Et oui, que cet amour puisse vraiment habiter en nous, que nous ayons vraiment conscience de toute la valeur que nous avons à tes yeux, et que nous puissions aussi partager. Partager ce message avec nos contemporains, ceux qui nous entourent, qu'eux aussi puissent découvrir l'amour que tu as pour eux. Amen. Bon, alors je continue sur les paraboles, hein, comme les autres fois. Et donc on est à la parabole, on a vu la parabole de l'ivraie, du bon grain, enfin du levain. Maintenant on est à la suivante, c'est la parabole du trésor caché. Donc on est dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Ça passe bien là dans le micro, c'est bon. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Alors cette parabole nous parle d'un trésor caché. Mais avant de parler du trésor, je voudrais d'abord parler de l'homme. Cet homme qui trouve le trésor, qui représente-t-il ? Bon, il n'y a pas beaucoup de mystère hein, dans la parole de Dieu. L'homme, c'est souvent la même personne. Mais bon, trouve-t-il le trésor par hasard ? Ou était-il en recherche active ? Je pencherai plutôt pour la deuxième hypothèse, hein, parce que trouver un trésor quand on cherche, c'est déjà rare. Alors en trouver un quand on ne cherche pas, ça l'est encore moins, ça l'est encore plus. Mais bon, la parole, elle ne nous dit rien à ce sujet. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Seigneur Jésus, lui, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Un peu comme ce trésor caché et perdu. Cette vérité, il l'illustre à travers de nombreuses paraboles, comme la brebis égarée, la drachme perdue dans Luc 15. Alors si on voit en cet homme Jésus-Christ, ce qu'on va détailler un petit peu plus tard, on peut rester donc sur l'hypothèse que cet homme cherchait. Mais même en cherchant, trouver un trésor quand même, c'est pas tous les jours. La parabole nous dit que ce trésor était caché, donc on va dire pas visible. Alors peut-être il était sous terre. Donc pour le voir, l'homme a dû creuser. Mais que faisait-il à creuser dans un champ qui ne lui appartient pas ? Et quelle chance il y aurait creusé juste au bon endroit ? Ou alors il a retourné tout le champ. Mais là, retourner entièrement un champ qui ne nous appartient pas, c'est encore moins logique. À moins qu'il travaillait pour le propriétaire. Peut-être, mais encore une fois, la Bible, elle ne nous dit rien à ce sujet. Ou peut-être qu'il y a une façon différente de voir les choses qui permettent de surmonter un peu ces difficultés. Je pense que ces interrogations nous viennent à l'esprit parce que quand on parle de trésor, on se représente tout de suite le coffre-fort avec les pierres précieuses, l'or dedans. Mais la Bible nous parle d'un trésor caché. Ça peut vouloir dire un trésor qu'on ne discerne pas au premier regard. En apparence, on ne voit pas le trésor, mais il est là malgré tout devant nos yeux. Alors le trésor, le trésor de quoi est-il fait ? Comme j'ai dit, en général, hein, c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Je m'excuse. Hein. Alors si on prend tous ces éléments dans leur état initial, d'où viennent-ils ? Du sol. Dans le sol, on trouve des minerais, on trouve des pierres à l'état brut. Quand on travaille le minerai, qu'on le fait passer par différents processus de transformation, on peut obtenir du métal, qui peut lui-même être purifié au creuset. Les minéraux bruts, cachés dans la pierre, doivent être, eux, extraits de la pierre. Et puis, on peut les tailler pour mettre en valeur leur beauté. Quand on possède un terrain qui est plein de minerais, ou qui est plein de minéraux bruts, où il y a plein de minéraux bruts dans le sol, on a un trésor dans le sol. Pas directement accessible, mais lié en puissance. Et si on veut le révéler, il faut faire passer ces éléments par des étapes d'extraction, de purification. Et quand on regarde dans la parole, cette image de purification au creuset, par exemple, c'est souvent employé. Hein. On peut citer le psaume 26, verset 2, où le psalmiste demande à Dieu « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Alors si on pousse cette image un petit peu plus loin, on trouve également dans le sol de l'argile, de la terre. Et on a aussi pas mal de passages qui nous parlent des vases d'argile, de terre. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21, on lit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. On peut tirer du sol de l'or, de l'argent, pour fabriquer des vases d'honneur, mais aussi de la terre, pour fabriquer des vases d'un usage vil. Ça peut faire penser encore à un autre passage dans Romains 9, versets 20 à 23. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé ? Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter, avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition ? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire ? Il y a donc bien des vases d'honneur, de miséricorde préparés pour la gloire. et des vases d'un usage vil préparés pour la colère à venir. Mais dans ce passage, les deux types de vases sont faits d'argile. Alors il y a un troisième passage qui vient réconcilier un petit peu ces deux passages. C'est dans 2 Corinthiens 4, versets 6 et 7. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ici, on a les deux, en une seule personne, le trésor et la terre, notre enveloppe charnelle, la terre, et le temple du Saint-Esprit, qui est le trésor en nous. Alors j'aime bien ce dernier passage, parce qu'il rééquilibre un petit peu les choses. Nous sommes en effet destinés à être des vases d'honneur, d'or et d'argent. Mais tant que nous sommes sur la terre, nos deux natures coexistent. La nature charnelle, le vase de terre, et la nature divine, Christ, habitant en nous par le Saint-Esprit. Et tant que nous sommes sur la terre, les deux natures coexisteront toujours. La gloire est à venir. Alors dans le minerai, l'or est mêlé à d'autres matériaux, beaucoup moins nobles. Ils coexistent. Alors on peut dire, on est comme sous forme de minerai dans la terre. L'or est présent dans le minerai, mais en puissance. Il faut cette étape de purification qu'est notre vie sur la terre pour extraire l'or du minerai, pour le purifier, pour enfin, au bout de notre parcours sur la terre, arriver dans la gloire. Alors dans cette image du trésor enfoui dans la terre, je vois l'Église, des hommes et des femmes dans le monde, mais qui ne sont pas du monde, comme le minerai d'or et d'argent présent dans le sol sont d'une autre nature que l'argile. Et pour que ce trésor apparaisse, il faut que ces hommes et ces femmes soient extraits du monde, comme le minerai doit être extrait du sol, et qu'ils soient purifiés, taillés, passés au creuset. Alors avec cette façon de voir les choses, toutes les questions qu'on se posait plus haut peuvent se résoudre. En effet, avec un trésor encore à l'état brut, sous forme de minerai par exemple, il faut s'y connaître un petit peu pour percevoir le trésor potentiel. Alors je vous propose un scénario possible. Donc cet homme passe à côté du champ, il observe, il cherche, et tout d'un coup il aperçoit un minerai qu'il reconnaît. Il y regarde d'un peu plus près, creuse un peu, trouve plus de minerai. Il regarde autour de lui, personne ne l'a vu, il recouvre le minerai et s'en va. Les autres passants, eux, n'ont pas conscience qu'il y a un trésor dans le sol, car ils n'y connaissent rien en minéralogie. Le connaisseur, lui, sait le discerner. Et quand on parle d'un connaisseur, qui sait discerner, le Seigneur Tout-Puissant n'est-il pas celui qui sonde les cœurs et les reins, et celui aux yeux duquel nul, tout est nu et découvert. On voit ça dans Hébreux chapitre 14, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors cet homme a trouvé ce trésor, il a su le discerner, comme le Seigneur qui a vu à l'avance sa gloire dans l'Église, des hommes et des femmes de toute nation réconciliés avec lui, ayant goûté à son amour. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6 nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alors on voit dans cette parabole que l'homme a découvert le trésor, on va dire il a su le discerner, il l'a caché ensuite à l'abri des regards jusqu'à ce que son plan soit réalisé. Et on sait bien que l'Église est dans le cœur de Dieu depuis le commencement, mais son plan d'amour, il l'a caché jusqu'au temps marqué. On voit ça dans Matthieu chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai ces choses cachées depuis la création du monde. Les paraboles nous parlent bien du royaume de Dieu, et toutes ces choses étaient cachées depuis la fondation du monde. Si on lit dans Romains 16, versets 25 à 27, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. » Alors on a pas mal de passages qui nous parlent dans ce sens. Il y a 1 Corinthiens 2, il y a dans 1 Pierre 1 aussi, je vais pas tous les prendre. Mais à travers tous ces passages, on voit que Dieu avait caché la révélation de ses plans d'amour. Il avait caché l'Église jusqu'au temps marqué. On voit aussi que les prophètes avaient une vague idée. Ils présentaient ce salut, mais ces choses restaient voilées. On voit ça dans l'Épître aux Hébreux aussi, où on parle du culte mosaïque comme étant une ombre des choses célestes, une préfiguration des choses à venir. Dieu a caché une image du céleste dans toute sa loi, ses ordonnances. Il a caché aussi ses vérités, on va dire comme voilées. Il a voilé ses vérités sur son plan d'amour. Et quand on parle de voile, il y a d'autres passages bien sûr qui viennent à l'esprit. On peut lire dans 2 Corinthiens 3, versets 14 à 16. « Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté en Christ. Il a fallu attendre sa venue pour que ses vérités cachées soient révélées. » Alors ce trésor dans la parabole, il est bien resté caché jusqu'à ce que l'homme vienne acheter le champ, jusqu'à ce que l'homme vienne payer le prix. Donc la venue de l'homme pour l'achat du champ représente bien la venue de Jésus-Christ qui a payé le prix pour acheter le monde. Alors on peut se dire pourquoi Dieu a-t-il caché ses vérités pendant tous ces siècles ? Si on considère la parabole, c'est plus facile à comprendre. L'homme qui a découvert le trésor le recache et s'en va. Il a besoin de temps pour préparer le rachat. On a parlé de cet aspect quand on a étudié ensemble la parabole du grain de sénévé où on voit que Dieu a pris le temps de préparer le terrain. Il a attendu les circonstances favorables pour planter la graine, pour envoyer Jésus. Il fallait faire prendre conscience du péché à travers la loi. Il fallait aussi attendre les circonstances favorables pour la diffusion de l'évangile. Et donc si ce temps était nécessaire, bien sûr, l'homme qui a trouvé un trésor, il ne va pas laisser le trésor à découvert aux yeux de tous, surtout pas aux yeux de ses ennemis potentiels, qui pourraient lui ravir le trésor. Est-ce que vous pensez que le diable aurait agi comme il l'a fait avec Jésus s'il avait eu connaissance des plans de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il aurait excité la foule à faire crucifier Jésus s'il avait eu conscience que, par cet acte, des hommes et des femmes allaient être sauvés pour l'éternité. Je pense qu'il aurait tout fait pour empêcher la mort de Jésus. Alors Dieu, dans sa sagesse, a caché ses plans. Il a caché l'Église jusqu'au temps marqué, jusqu'au temps du rachat. Alors après avoir découvert ce trésor et l'avoir caché, l'homme s'en va. La parabole nous dit qu'il est très joyeux. Et dans Hébreux 12, verset 2, on lit « Courons, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Oui, on sait que Jésus s'est réjoui à l'avance en voyant l'Église. Et c'est cette joie qui voyait au-delà de la souffrance et du sacrifice qui l'a conduit à la croix. Alors l'homme de la parabole a décidé de tout vendre. C'est cette vision du trésor qui le pousse à renoncer à tous ses autres biens. Et on sait bien aussi que Jésus a renoncé à tout pour venir. Il a mis de côté la gloire éternelle qu'il avait auprès du Père. On lit ça dans sa prière, juste avant d'aller au calvaire, dans Jean 17. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » On voit que Jésus s'est humilié. Il y a d'autres passages qui nous le disent aussi, hein, dans Philippiens 2, versets 5 à 8, par exemple. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'homme de la parabole a renoncé à tous ses biens, comme Jésus a renoncé à toute la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Alors pour tout vendre, la parabole ne nous dit pas combien de temps il a pris, peut-être quelques semaines, quelques mois. On l'a vu plus haut, ce temps était nécessaire pour préparer les plans de Dieu. Mais on peut se demander pourquoi a-t-il tout vendu ? Le champ était-il si cher que ça ? C'est comme s'il avait décidé de payer le prix fort pour ne pas laisser au propriétaire la possibilité de refuser. Dans le cas de Jésus, en tout cas, c'est bien le prix fort qu'il a payé, puisqu'il a donné sa vie pour nous. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19 nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ouais, » le Seigneur est allé jusqu'au bout, en vue de la joie qui lui était réservée. Alors, où en sommes-nous ? Le Seigneur Jésus est venu, il nous a rachetés. Comme le Seigneur l'a dit sur la croix, tout est accompli. Alors, une fois que le champ est acheté, le minerai appartient au nouveau propriétaire. Le minerai a beau être encore dans la terre, il lui appartient. Même le minerai, une fois extrait du sol, il a beau être encore sous forme de minerai, en mélange avec des matières, on va dire, moins nobles, il appartient au nouveau propriétaire. Le rachat a eu lieu. Nous appartenons au Seigneur. Quand on accepte Christ en nous, il vient vivre en nous. Alors on peut être encore bien loin de ses plans à bien des niveaux, nous lui appartenons malgré tout. Et si l'homme a racheté ce champ, c'est bien pour en extraire le trésor. Le Seigneur a payé le prix fort pour nous. Ce n'est pas pour nous laisser tels que nous sommes. C'est bien pour nous purifier, pour que nous soyons semblables à lui. Alors, comme on... Bien sûr, ça demande des étapes de purification. Et comme j'ai dit plus haut, notre passage sur la Terre représente sans doute cette étape de purification. Et notre gloire paraîtra seulement à son retour. On peut lire dans Colossiens 3, chapitre 3, versets 3 à 4, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Notre vie sur la terre n'est pas souvent très glorieuse. Nous sommes encore sous forme de minerai, en cours de transformation, de purification. Mais quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. On peut lire dans 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Alors nous savons que la gloire nous attend, mais en attendant, la purification par laquelle le Seigneur nous fait passer n'est pas toujours facile à supporter. Il y a des souffrances, des épreuves. Mais bien sûr, bon, vous connaissez très bien ce passage de Romains 8 où l'apôtre Paul nous dit: J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Dans 1 Pierre 1, on lit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors nous sommes comme ce minerai, possédant en lui-même les prémices du vase d'honneur, mais devant passer d'abord par l'étape de purification. Alors soyons patients. Le résultat sera merveilleux. Alors pour ceux qui douteraient encore que nous puissions être son trésor, que nous puissions avoir une telle valeur à ses yeux, j'ai juste sélectionné quelques passages dans la parole qui nous redisent ces choses. Il y en a énormément, hein. Mais je me suis cantonné au passage qui nous parle un petit peu, qui se rapproche du trésor. Alors concernant le trésor trouvé par l'homme, une fois que le trésor est extrait, purifié, ce trésor devient son héritage. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent aussi de l'héritage. Le psaume 2, versets 7 à 8 nous dit: Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » L'Église, composée de tous les croyants, représente bien l'héritage de Christ. Nous sommes nous-mêmes son trésor, des éléments de valeur, la prunelle de ses yeux. On voit dans Deutéronome chapitre 32, versets 7 à 11, « Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. » Et puis on va prendre un dernier passage dans Cantique des Cantiques. Alors c'est chapitre 4, je vais prendre un verset, piocher un verset par-ci par-là. « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. » Dans tout le livre du Cantique des Cantiques, on voit combien Salomon prend plaisir en sa fiancée. Elle est la prunelle de ses yeux. Et ce cantique entre Salomon et la Tsunamite est une image de la relation de Christ à l'Église. L'Église est véritablement le trésor de Christ. Alors si quelqu'un ne le savait pas encore, on va le répéter encore ce matin, tu as une valeur immense aux yeux de Dieu. Tu es son trésor, la prunelle de ses yeux. Le Seigneur Jésus a renoncé à tout pour te sauver. Il a payé le prix fort. Il a donné sa vie. Et même si pour le moment, la vie chrétienne n'est pas facile tous les jours, même s'il faut passer par des temps d'épreuve, fais comme le Seigneur et regarde au loin. La gloire est à venir. Amen.